J'ai 13 ans, j'habite aux États-Unis pour un échange scolaire, et malheureusement pour moi, les stars du moment, c'est Duran Duran.
Her name is Rio and she dances on the sand, just like that river twisting through a dusty land. And when she shines, she really shows you all she can. Oh Rio, Rio, dance across the Rio Grande.
Le morceau s'appelle Rio. Dans la vidéo, on les voit sur un yacht, ils sont entourés de top modèles. J'ai quand même 13 ans et c'est bien possible que ce soit ça qui m'ait séduit. Je suis Jean-Charles Versari. Je suis ingénieur du son dans mon propre studio, Poptone Studio. Et je suis par ailleurs musicien. Je joue de la guitare et je chante avec mon propre groupe, Versari, et avec Adam H. C'est difficile pour moi de parler du post-punk sans parler de Duran Duran. Non pas parce que Duran Duran ont été importants pour le post-punk ou la New Wave. C'était quand même un peu de la soupe. Je pense que ça m'a éduqué par le négatif. En 1984, quand je rentre des États-Unis, je retourne au collège et je me dis que Duran Duran, ça craint. Je commence déjà à me désintéresser de ce groupe. C'est à ce moment-là qu'arrive la New Wave en France, enfin en tout cas sur les radios, avec des groupes comme Tok Tok ou Depeche Mode. Pour Depeche Mode, c'est l'époque de Master and Servants. Sur scène, ils ont un look un petit peu SM, qui est surprenant pour l'époque. Ils prennent des éléments dans ce que je découvrirai plus tard comme étant la musique industrielle. Donc il y a des bruits métalliques qui servent pour des rythmiques, il y a des bruits de machine-outils, il y a des éléments qui sont assez étonnants pour une musique pop malgré tout, parce que Depeche Mode reste un groupe pop. Je me souviens très bien de partir en voyage organisé avec mes collègues de collège. Et dans le bus qui nous emmenait en Angleterre, un de mes camarades me dit « Ouais, Duran Duran, c'est vraiment pas de la New Wave. La vraie New Wave, c'est Depeche Mode. »
It's a lot, 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 it's a lot like life.
Il y a une certaine violence, malgré tout, c'est un groupe de pop, mais ils viennent quand même de ce truc très électronique, post-cabaret Voltaire. Il y a quelque chose de dur dans leur musique, malgré tout. Il y a en plus une vraie mélancolie. Et je pense que c'est ça qui va m'attirer le plus vers le post-punk, cette mélancolie. C'est à ce moment-là que mon ami Gwen, avec qui je suis en classe, me donne une cassette en me disant « Tu devrais vraiment écouter ça, c'est super. » Et c'est une cassette avec sur une face 17 Seconds et de l'autre côté Faith du groupe The Cure. Je me souviens très bien de rentrer chez moi et de mettre ça dans mon espèce de chaîne pourrie que j'avais dans ma chambre. Et là, je me prends une vraie claque. C'est très doux et en même temps avec des guitares qui sont quand même tranchantes. Il y a dans les textes quelque chose d'assez mélancolique et triste, mais tout en étant lumineux et brillant. J'attrape des bribes de phrases qui vont faire que je m'identifie vraiment à ces morceaux et que d'un seul coup, ces morceaux vont devenir un peu l'histoire de ma vie. Et puis surtout, je commence à acheter des magazines, enfin acheter un magazine particulièrement, j'achète Best. Puis évidemment, il y a Les Enfants du Rock, avec l'émission de Bernard Lenoir, qui pour le coup vont me faire découvrir plein d'artistes, et puis bon, puis mes amis au collège. Mais on n'est pas si nombreux à écouter cette musique, on est quand même un peu des parias déjà à l'époque. Mais réellement, The Cure a changé ma vie. Ces albums ont été une porte ouverte sur un monde que je ne connaissais pas, évidemment, et auquel je me suis vraiment tout de suite identifié et qui m'a vraiment happé. Et chaque fois que je découvrais un nouveau groupe qui était dans une mouvance plus ou moins proche de Cure, il y avait toujours quelque chose qui me séduisait. Il y avait assez peu de groupes français qui étaient dans ce domaine-là, et surtout, personne autour de moi ne les connaissait. Et puis, on n'était pas très au fait de ce qui se passait à New York, alors que le mouvement No Wave est absolument important. Ce qu'il faut que je dise, c'est que je suis arrivé au post-punk sans passer par le punk. Et j'ai pas écouté les Clash, j'ai pas écouté les Pistols, j'ai pas écouté les Buzzcocks. Et je n'ai pas écouté le punk américain, je n'ai pas écouté les Ramones, j'ai découvert ça plus tard. Pour moi, les Clash, c'était juste un badge avec un gars qui cassait sa guitare. Ce que je trouvais cool, mais j'ai jamais écouté leur musique. Mes collègues de classe, ils disaient « Ouais, bah, le punk, c'est comme du hard rock, mais plus vite. » Ce qui est absolument pas vrai, puisque c'est pas la même attitude. Le punk se démarquait complètement du passé du rock par déjà une musique qui n'était pas une musique virtuose, alors que le hard rock, c'est quand même les rois des shredders, et c'est vraiment pas du tout la philosophie punk. Le punk, c'était... On se rassemble, on a des idées, on a quelque chose de fort à dire, on le fait ensemble, mais on n'est pas nécessairement des bons techniciens. Et ça, c'est quelque chose qui a été très important pour moi, puisque c'est ce qui a fait que je me suis dit, mais moi aussi, je peux faire de la musique. Je pense que le Velvet Underground, qui pour beaucoup de gens est un peu la genèse du punk avec les Stooges, et le punk m'ont vraiment amené à faire de la musique. À accepter le fait que j'étais pas un virtuose, mais c'est pas grave, parce que on peut avoir des idées et les exécuter bien sans être un virtuose. Sudie and the Matches, c'est un groupe incroyable avec deux périodes assez marquées, comme beaucoup de groupes de cette époque-là. Une période plus punk. Le premier album, c'est The Scream, et le deuxième album, c'est Join Hands, qui sont vraiment des albums durs et punk, vraiment, avec quelque chose de très théâtral, et même dans leur période punk, il y avait déjà ce truc-là. Et Kaleidoscope, leur troisième album, c'est vraiment le tournant vers le post-punk. Et Kiss in the Dream House a été un album très important, et il a quelque chose de très froid, et en même temps, il y a une espèce de puissance et d'humanité et d'incarnation qui est vraiment forte, quoi. En plus, la pochette... The Kiss in the Dream House est inspiré d'une peinture de Klimt, et ça fait partie des peintres que j'aime beaucoup adolescent.
You are the melting man, you are your situation, there is no time to breathe. And yet one single breath that leads to an insatiable desire. Of suicide insist. So many blazing orchids burning in your throat. It's making you choke, it's making you sigh a tiny death. So melt, my lover, melt, she said. Melt, my lover, melt.
Il y a des groupes plus politisés dans le post-punk. Et après, j'ai envie de dire politisé, pas au sens d'affilier à un parti politique, mais en tout cas avec des discours sociaux forts. Il y a eu quelques groupes qui étaient plus impliqués socialement, politiquement, et celui que je retiens vraiment, c'est Gang of Four. Alors, il y en a eu d'autres, hein, il y a eu Scritti Politti par exemple, mais qui musicalement déjà sont très très discutables, et finalement ont fait une carrière dans le post-punk très très courte. Alors que Gang of Four, leurs deux premiers albums sont quand même vraiment des albums qui parlent de la société de consommation, du rapport entre les êtres humains qui est en effet motivé par l'argent, par l'ascension sociale au sens crasse du terme, avec en plus une dimension funk que les autres groupes de post-punk dont j'ai parlé jusque-là ont pas. Gang of Four ont ce truc très très dansant et très prenant, et il y a presque une basse slapée sur certains morceaux. Alors c'est pas du slap, hein, ils jouent au Mediator très fort. Ça, c'est un groupe qui était à mon avis très très important pour le post-punk. Quand on écoute Joy Division, quand on écoute Gang of Four, Là, on est vraiment dans un truc d'avoir besoin d'avancer, de dire des choses, quelque chose de vraiment de primal et de touchant par cette espèce de violence qu'il peut y avoir dans la musique. En plus de cette énergie, dans le post-punk, il y a une vraie importance qui est donnée au texte. On n'est pas dans le format pop de la chanson d'amour qu'il y a encore vraiment dans le punk, ce qui est bien. Hein. Les groupes punk sont des vrais groupes pop mélodiques hyper brillantes. Mais le post-punk va plus casser les limites de l'écriture. On est vraiment dans une autre conception de la composition et de l'écriture. En tout cas, je vais vraiment m'inspirer de ça pour ce que je vais faire en tant qu'auteur-compositeur par la suite. Un autre groupe très important pour moi de l'époque, c'est Minimal Compact. Je les ai découverts par le magazine Best. J'ai vraiment acheté les disques parce que la description qu'en faisait le magazine m'interpellait. C'est un groupe israélien, donc avec des influences vraiment musicales orientales qui sont très marquées. Je vais acheter le premier album One by One chez Gibert. Il passe en concert en 86 à l'Élysée Montmartre et ce sera vraiment un concert très important pour moi. C'est là que j'achèterai mon premier numéro des Inrecuptibles. Je suis pris par cette musique qui a quelque chose de très hypnotique. Là, pour le coup, les textes sont très, très poétiques. C'est même plus de la poésie que des textes, pour la moitié, disons. Tout en ayant cette énergie du post-punk. Ils jouent un espèce de funk cassé, triste. En plus de ça, c'est un groupe qui a été très important parce que le chanteur Sammy Birnbar a été une référence pour moi pour le chant. Je pense qu'on a une tessiture qui est proche. Et voilà, je me suis entraîné à chanter sur les morceaux de Minimal Compact.
Facing a mountain in the valley below, hours of climbing to get down so low. First loves and memories are fading like snow. Where did I come from or where do I go? Change things in me, sorrowful trance into real ecstasy. Lunatic logic and feelings in vain must be a something I still got to learn. Oh, it takes a lifetime. Oh, it takes a lifetime.
Ça m'a vraiment particulièrement touché cette musique. C'est très mélancolique pour le coup. C'est très tonique quand même, ça bastonne pas mal. Mais il y a quelque chose de très contemplatif. Et il y avait en plus ce côté musique orientale qui se mélangeait avec le truc post-punk vraiment droit. Quoi. Malka Spiegel, qui était donc la bassiste, disait qu'en fait, elle savait pas changer d'accord. Quoi. Donc en gros, ils ont vraiment créé un truc où finalement la basse reste totalement ostinato tout du long du morceau. Et en fait, c'est toutes les harmonies qui changent et qui créent cette espèce de relief très particulier qu'ils avaient. Et Minimal Compact ont été très importants pour autre chose aussi, c'est que c'est en lisant, je pense, un interview de Sammy Birnbar dans Best que j'ai entendu parler de Joy Division pour la première fois. Oui. Last goodbye.
place to hide. A cruel wind that blows down to our lunacy and leaves him standing cold here in this colony.
Ça, ça a été l'autre rencontre musicale déterminante pour ce que j'ai fait par la suite comme musicien, comme chanteur, pour mon écriture. Il y avait une certaine violence, une urgence dans leur musique qui était quelque chose qui me touchait vraiment. Et voilà, tout le cinéma qu'il y avait un peu autour de Joy Division, je m'en foutais un peu en fait, pour être absolument franc. Moi, ce qui me touchait, c'était les textes, c'était l'humanité qu'il y avait dans les textes, c'était vraiment cette espèce de force de la voix et de puissance de la musique. Et je pense que aussi, oui, écoutez... Yann Curtis chanter, ça a vraiment été un déclencheur pour moi, de la même manière que Samy Bianbar, et c'est vraiment deux voix qui ont été, je pense, formatrices pour ce que j'ai pu faire par la suite comme musicien. C'est vrai que depuis le début, je mélange un peu des morceaux de différentes périodes, et donc pour des gens qui seraient un peu dans la spécialité... de différentes étiquettes, donc New Wave, Cold Wave, God je ne sais quoi, on s'en fout un peu des étiquettes en fait, tout ça c'est vraiment des groupes qui sont nés sur les cendres du punk et qui ont créé quelque chose de nouveau et de très inventif, voilà. Dans cette famille-là, on pourrait ajouter Bauhaus.
Oh, classic gentlemen, say your prayer to the wind of prostitution, to your faces and rags complexes, riddle my breast full of the oppressed pus. Gentlemen, with your fish that you surround all around, and you men will always point your fishes at me. The rat race begins, the fat face stings. I hold the fresh pink baby with a smile. I slice off those rosy cheeks because I feel so thirsty. An Oedipus Rex complexes.
Le morceau s'appelle The Three Shadows, Part 2. C'est un morceau de leur album The Sky's Gone Out. Moi, j'ai découvert Bauhaus à l'époque vraiment avec ce qu'ils ont fait au tout début, Bela Lugosi's Dead, leur premier single, et cet album The Sky's Gone Out. Et c'est un album très cotonneux. J'ai lu que c'était un album qui était vraiment sous influence d'opiacé fort. Three Shadows a un texte très surréaliste qui parle de la prostitution, mais qui parle de poissons aussi, qui part dans le surréalisme, quoi, qui ne suit plus un fil qui est linéaire, qui joue par association d'idées comme un cadavre exquis presque. Ils ont un morceau d'ailleurs qui s'appelle Exquisite Corpse. Ce qu'on oublie un peu, c'est que Bauhaus, c'est quand même un groupe de rock qui prennent même peut-être plus dans le glam que dans le punk. Alors évidemment, Bela Lugosi's Dead a un rythme un peu reggae avec des délais, mais utilisé complètement différemment de ce qui pouvait se passer en reggae quand même. Donc je parlais du glam, Peter Murphy est très fan de Bowie, qui a été une grosse influence pour lui. Ils reprennent Ziggy Stardust de Bowie sur un album, dans une version qui est très très proche de la version originale, avec un son plus moderne, en tout cas plus de l'époque, et cette espèce de voix nasillarde que Peter Murphy pouvait avoir, Peter Murphy étant le chanteur de Bauhaus. Mais ouais, Bauhaus, c'est un peu un groupe de glam post-punk, mais qui n'utiliserait que des paillettes noires et des paillettes blanches, quoi. Un autre groupe avec une chanteuse qui a été très très important pour moi, c'est les Cocteau Twins, qui sont aujourd'hui séparés en effet. Liz Fraser s'est fait connaître par la suite parce qu'elle a chanté avec Massive Attack sur des gros tubes il y a, je sais pas, 10 ou 15 ans maintenant, c'est vieux. Eux, c'était vraiment autre chose parce que les textes, alors là, typiquement, je n'ai jamais rien compris. C'est-à-dire que je cherchais même pas à comprendre ce qu'elle disait, quel mot il fallait associer. C'était juste une espèce de mélodie avec beaucoup d'espace, beaucoup de guitares saturées, très très belles, des longs échos à ces guitares, des longs échos dans la voix, des doubles voix, des superpositions de voix. Enfin, c'était vraiment, vraiment assez fascinant, ce monde. Et leur premier album, Garlands, reste pour moi vraiment un chef-d'œuvre. Cocteau Twins, c'est un peu à l'envers de Minimal Compact dont je parlais tout à l'heure. Minimal Compact, c'était la basse qui tenait la boucle, qui tournait, qui faisait le côté hypnotique du truc. Et c'était les guitares qui créaient du coup les harmonies, les tensions et ce qui se passait. En fait, sur ce morceau, c'est le contraire. C'est la guitare est en ostinato tout du long du morceau. Et c'est la basse qui crée l'évolution harmonique et qui fait les changements. Mais quand j'ai écouté ça la première fois, c'était encore une des nombreuses claques. Je me dis, mais puis qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? Beaucoup plus tard, quand j'étais beaucoup plus vieux, j'ai rencontré Robin Guthrie et on a parlé de ça, de cette époque de Garlands. Et je ne sais plus comment c'est venu sur la table, mais il m'a dit qu'à l'époque de Garlands, en fait, ils étaient sur le même label que Birthday Party, qui est le groupe de Nick Cave avant Nick Cave and the Bad Seeds. Birthday Party, c'est un groupe primal et c'est Nick Cave dans tout ce qu'il y a de plus bayou, crasseux, étrange. J'aurais bien voulu voir un concert des Cocteau Twins à l'époque de Garland avec Birthday Party. Mais voilà, j'étais trop jeune.
Gunn wears his alcoholism well. Finger in bottle and swinging it still. From bed to sink and back again. The clock is crawling round the same. His busting clock, it hates his face. Just sitting talking to hearts and ticks. Talking back to clock, his slow and studded kicks. The fears of gun, the fears of everyone. Fingers down the throat of love. My fingers down the throat of love. My fingers down the throat of love. My fingers down the throat of love.
1988, donc j'ai fini le lycée, je travaille comme assistant photo pour un photographe qui a vécu les fastes des années 80. Et dans sa collection de disques, il a trois disques d'artistes que je vais découvrir. Les Slits avec l'album Cut, le premier album de Cass Product, et Lydia Lunch avec l'album Queen of Siam. Lydia Lunch, ça passe plutôt du côté de New York, donc on est vraiment dans la no wave. Cet album est un espèce de mélange de free jazz et de post-punk très étrange, typiquement la no wave, hein, avec James Chance, avec DNA et tous ces groupes. Et donc je vais jouer Atomic Bongos de Lydia Lunch.
I am bongo, crazed with the crazy beat. Makes me stamp and shout, get up on my feet. All the boys go wild with the bongo chill. Chase the girls around for a bongo thrill. Surfing's not too cool, just what can you do? Standing on a board and the water's cool. All the girls go wild, start to shake their hips. When the boys start to play their final beat.
Un groupe qui du coup est très important pour moi aujourd'hui et que j'ai malheureusement découvert très très tard, c'est Public Image Limited. Comme je le disais, je ne suis pas passé par le punk, je ne suis pas passé par la case Sex Pistols. Et je l'ai découvert en 86 avec l'album qui s'appelle Album, Public Image Limited Album. Le single était plutôt pas mal. J'avais acheté l'album et je n'avais pas du tout été séduit. Bien que John Lydon en soit très 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 content aujourd'hui, moi j'avoue que j'étais un peu... déçu, et donc je m'auto-flagelle régulièrement en me disant putain, j'aurais pu aller au concert à cette époque-là, et j'y ai pas été à ce concert. Je me souviens très bien, il avait joué en France, je me souviens d'avoir vu un interview de lui à la télé où il disait
Tell the kids to come, it's gonna be crazy,
ou quelque chose comme ça, enfin avec sa voix pas possible et en faisant ses gros yeux, et c'était, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc.
Could be wrong, I could be right. I could be wrong, I could be right. I could be wrong, I could be right. I could be black, I could be white. I could be right, I could be wrong. I could be white, I could be black. Your time has come, your second skin. The cost so high, the gain so low. A walk through the valley. The written word is a lie. May the road rise with you. May the road rise with you. May the road rise with you. May the road rise with you.
En fait, j'ai découvert récemment en lisant la biographie de John Lydon que cet album de Public Image, donc album, a été produit par Bill Laswell. Et je dois avouer ici que j'aime pas trop les trucs que fait Bill Laswell. Et ça ne fait que confirmer ce que je pensais. Et je me dis, bah, peut-être que j'aimais pas cet album pour cette raison précise en fait. Je crois que c'est Steve Vai qui joue les guitares. Et Steve Vai, c'est un peu le contraire d'un guitariste de post-punk. C'est-à-dire que le post-punk, c'est quand même... tu sais pas jouer, mais c'est pas grave, tu vas le faire et tu vas faire ça bien et tu auras des super idées. Steve Vai, c'est peut-être un peu tout le contraire, au risque de hérisser tous les chevelus qui écoutent cette émission. Steve Vai, c'est je sais très bien tout faire, mais je n'ai aucune idée. Voilà. Voilà ma dernière vraie découverte de post-punk ancien. C'est Metalbox depuis, enfin, qui est un album fondateur pour le post-punk et pour la musique en général, pour les parties pris de production, pour le son, pour... C'est génial, c'est juste génial. Je pense que John Lydon est un génie. C'est un disque qu'il faut écouter, c'est au moins par curiosité, parce qu'on peut apprendre beaucoup avec ce disque. Voilà.
Words can never say the way you told me in your eyes. Final enough faith, never no more away. Final enough faith.
Death Disco, un morceau que John Lydon a écrit sur sa, pour sa mère, qui mourait. Donc c'est pas drôle du tout. J'ai découvert tous les artistes dont j'ai joué un titre aujourd'hui sur une période de 4 ans, entre 1984 et 1988, entre mes 14 ans et mes 18 ans. Et je me rends compte à quel point c'est une période fondatrice pour moi, que ce soit pour mes goûts musicaux, ou pour ma création musicale, ou pour mon approche de la production. Sans le post-punk, je ne serais probablement pas la personne que je suis aujourd'hui. Vous écoutez Arte Radio.
Point com.